Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Inscrivez ces dates dans votre agenda. Du 9 au 13 juin se tiendra le plus grand événement Apple de l'année, la WWDC. Alors que l'on découvrira une palanquée de mises à jour majeures, Apple est attendu au tournant dans plusieurs domaines. Quels sont les enjeux de cette édition 2025 ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, l'AirPods Max va recevoir une amélioration presque inespérée, WhatsApp peut remplacer les applications d'Apple sur votre iPhone et Google va cacher tout le développement d'Android. Nous sommes le samedi 29 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est vraiment le printemps, il fait beau, c'est le changement d'heure ce week-end et on a enfin les dates de la WWDC. Salut Christophe, tu vas bien ?
Bonjour Stéphane, oui ça va bien, par contre je m'inquiète un petit peu pour l'Apple Watch, va-t-elle réussir à c'est plutôt l'iPhone d'ailleurs, pas l'Apple Watch, va-t-elle réussir à gérer l'alarme correctement cette fois-ci ?
Il y a toujours des doutes oui, sur les changements d'heure avec l'iPhone, il faut faire attention des fois. Ouais.
D'ailleurs il y a des trucs qui sont marrants là, dans WatchOS, là, ils ont enfin décidé, donc dans la nouvelle version qui sortira prochainement, de faire sonner l'alarme même si l'Apple Watch est en mode silencieux. Et il y a des trucs, je me demande, comment ça se fait qu'au bout de 10 ans, tout d'un coup, ils prennent cette décision ? Qu'est-ce qui leur a fait que... C'est vraiment, moi je crois, mais alors, il y a quelqu'un qui a dû un jour chez Cupertino rater un avion à cause de ça ou une réunion importante, et il s'est dit, non, ça, il faut absolument changer, ça peut plus continuer.
C'est peut-être ça, ouais. Il y avait un sujet dont on a pas mal parlé cette semaine, je sais pas toi si t'es ajouté par Megard à un groupe Signal récemment.
Eh ben oui, parce que effectivement j'ai joué avec j'ai enfin pu installer je me suis surtout enfin décidé à installer les release candidates d'iOS et de macOS.
Ouais.
Et donc j'ai enfin pu jouer avec Apple Intelligence. D'ailleurs, sachant que j'ai mon Mac qui est compatible Intelligence contrairement à mon iPhone, donc je pense qu'en fonction de vos terminaux, soit ça va être une toute petite mise à jour, vous allez dire ah il y a pas grand chose. Et ceux qui ont Apple Intelligence vont se dire « Ah, quand même, il y a quand même quelques petits trucs. » Et j'ai pu jouer avec notamment Image Playground. C'est très marrant, hein, mais de toute façon, les solutions de réalisation de dessins par intelligence artificielle, c'est toujours très rigolo. Et donc, voilà, Apple Intelligence a fait un croquis de moi et tout le monde dit que je suis maintenant le sosie de Craig Federighi. Et donc voilà, depuis que j'ai mis cette image-là dans Signal, je suis ajouté dans des groupes un petit peu bizarres de chez Apple. W2025, il y a un groupe comme ça notamment.
Ah d'accord, je voyais pas trop où tu voulais en venir, et je comprends mieux maintenant, d'accord.
On mettra le lien.
Oui, voilà, on mettra le lien sur les groupes Signal un peu confidentiels. Le premier sujet de la semaine, c'est bien sûr la WWDC 2025, c'est officiel donc. Apple a annoncé cette semaine que la prochaine édition se tiendra comme d'habitude à l'Apple Park et ce sera du 9 au 13 juin précisément. Alors l'essentiel sera bien sûr disponible sur Internet et on suivra ça en détail. Et comme d'habitude, Apple n'a pas donné le programme à l'avance, mais on s'attend à découvrir une tonne de mises à jour. Il y a plusieurs sujets brûlants qui attendent Apple à cette occasion. iOS 19 et macOS 16 ne seraient pas des mises à jour comme les autres, car ces systèmes inaugureraient une toute nouvelle interface, un changement très sensible, hein, puisque c'est évidemment ce qu'on voit en premier quand on allume son iPhone. Et on se demande aussi quelles nouveautés vont arriver pour Apple Intelligence, qui n'a pas encore concrétisé toutes ses promesses. Est-ce que c'est la WWDC de tous les dangers ?
Tadam. Non mais alors tout d'abord je te félicite, tu l'avais vu venir avant tout le monde que cette WWDC trouverait place un jour férié.
Eh oui, j'ai regardé le calendrier, je me suis dit oula, là le lundi 9 juin ça va être ce jour-là, c'est sûr.
Mais c'est comme ça, Tim il aime faire des surprises à Florian la veille du jour de son anniversaire, il est comme ça,
aussi,
il veut
ouais.
Toujours un petit peu le gâter, donc voilà, il met toujours le paquet le 9 quand il peut. Bah, c'est toujours très intéressant ces périodes pré-WDC. C'est souvent un moment de doute concernant les capacités d'Apple à réagir. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on doute de plus en plus et de plus en plus tôt. Ce qui veut dire peut-être que la barre est toujours plus haute et on a l'impression qu'Apple a toujours moins de marge. Mais de manière générale, je dois dire que j'aime moins l'événement qu'il y a quelques années. Alors, même si on n'y est pas ou on n'y était pas, voilà, dans les années 2010, on sentait une vraie excitation en Californie quand il y avait ces milliers de développeurs qui convergeaient à Cupertino ou, enfin, ou dans la région pendant une semaine. Alors, il y a aussi un truc qui me déplaît. Alors, c'est la forme des keynotes. Alors, je parle pas du fait que ça soit des keynotes vidéo, même si je suis pas non plus un grand fan de ce format-là. Mais je trouve que le niveau technique des keynotes ne cesse de baisser depuis des années lors de la WWDC.
Ah oui.
Avant, il fallait un peu s'intéresser à la technique pour comprendre certains aspects, même si c'était toujours très didactique, hein. Là, c'est vraiment. Oh, regarde comme tu peux personnaliser ton écran d'accueil. Regarde comme ils sont beaux, mes nouveaux effets dans Easy Message. Regarde comme ils sont chouettes, mes nouveaux fonds d'écran.
Ah ok, je croyais que tu
Mais.
parlais de la technique des vidéos, des moyens de
Ah
réalisation,
non,
mais non,
voilà, c'est.
la
Non, non.
technique sur les appareils Apple, sur les nouveautés qui sont
Ouais, sur
présentées.
ce qui est
D'accord,
présenté,
ok.
ouais. Non, non, là, techniquement, en vidéo, là, ce
Oui,
serait
c'est
difficile de reprocher quoi que ce soit, parce que c'est du grand art, ça, il n'y a pas de
balèze,
souci, hein. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être, des fois, une conférence un petit peu pour neuneux. Enfin, ils nous prennent un peu pour des neuneux par moment. Après, c'est vrai, tu me diras qu'il y a le keynote State of the Union qui suit quelques heures après,
oui.
et qui est un peu plus technique, mais c'est pas pareil, on passe vraiment là dans un autre aspect des choses.
Côté développeur. Ouais.
Ouais. Alors, on est à un événement pour développeurs. La communication du keynote principal est orientée ultra grand public. Qu'Apple cherche à communiquer au-delà des développeurs, je peux le comprendre, mais là, enfin, ça va vraiment trop loin. Enfin, je pense que les développeurs, enfin, quand ils regardent ce keynote, ils oublient qu'ils sont développeurs et ils se mettent, enfin, ils voient ça comme des simples utilisateurs. Et là, je pense qu'en plus cette année, avec la nouvelle interface qu'Apple prépare, c'est certain qu'on va pas ou peu parler technique. Même si, attention, hein, je suis quand même assez curieux de voir ce qu'Apple nous prépare. Dans quelle direction elle va aller, ou en tout cas elle veut aller. J'ai beaucoup critiqué le Vision Pro, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être reprises à profit sur les autres terminaux d'Apple. Et je pense qu'il est intéressant, voire primordial pour Apple de rapprocher le plus possible les expériences utilisateurs entre les différentes plateformes sans les dénaturer, mais des fois c'est un petit peu compliqué. Alors après, comme tu disais, l'autre chantier qu'on attend avec impatience, c'est celui d'Apple Intelligence. On sent quand même qu'Apple est en mode un panique depuis 12-18 mois pour rattraper son retard et que bah, pour l'instant, ça ne se passe pas forcément très bien. Alors d'ailleurs, enfin, c'est un petit peu la question qui va être en toile de fond lors de la WWDC. Est-ce qu'Apple est en capacité de rattraper son retard et d'avoir une plateforme d'intelligence artificielle à elle qui soit compétitive. D'ailleurs, elle continue à beaucoup investir dans le domaine. Je crois qu'on a appris cette semaine qu'Apple était sur le point d'acheter pour 1 milliard de dollars de cartes graphiques Nvidia. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, est-ce qu'elle va s'imposer comme, est-ce qu'elle va pouvoir imposer son intelligence artificielle ou est-ce que son rôle va se cantonner finalement à accueillir les intelligences artificielles des OpenAI et d'autres au sein de ces systèmes d'exploitation. Alors à court terme, cette dernière stratégie, elle peut suffire, mais à long terme, je pense et j'ai bien peur que cela pourrait être la cause de son déclin.
En attendant de voir ça, Apple a fait une bonne surprise aux propriétaires d'AirPods Max cette semaine. Le casque va bientôt recevoir une mise à jour qui ajoutera la prise en charge du lossless et une latence réduite. Alors, le lossless, si vous ne connaissez pas, c'est de l'audio non compressé et donc c'est la qualité maximale que l'on peut obtenir avec les fichiers numériques. Tout le catalogue d'Apple Music est disponible en lossless d'ailleurs, donc c'est pratique. Pour profiter de ces améliorations, il faudra brancher l'AirPods Max à son iPhone ou à un autre appareil avec un câble, comme au bon vieux temps. Et la moins bonne surprise, c'est que seul l'AirPods Max USB-C, qui est sorti l'année dernière, est concerné par cette mise à jour. Si vous avez la version Lightning, eh ben, tant pis pour vous, hein, tout simplement. Est-ce que cette mise à jour rend l'AirPods Max d'un seul coup vraiment meilleur, Christophe? Je rappelle son prix quand même, 579 euros.
Bah, je crois que je suis incapable de dépenser plus de 300 € dans un casque, aussi bien soit-il. Donc, enfin, moi, c'est ma petite limite psychologique, même si je me souviens que lorsqu'on le trouvait en promotion à une certaine époque aux alentours des 400 € je réfléchissais un peu.
Ouais, c'était 400 euros
Donc,
au mieux.
ouais, voilà. Cette nouveauté, elle s'inscrit un petit peu dans. Parce qu'on, enfin, c'est un peu une nouvelle politique chez Apple, en tout cas pour ses accessoires, c'est de continuellement les améliorer après leur sortie. On l'a vu très souvent avec les AirPods Pro 2, qui ont quand même enfin, reçu une quantité d'améliorations non négligeables depuis leur commercialisation. Ça va faire quoi? 2-3 ans quasiment à la rentrée, je crois. Hein.
Presque, ouais.
Apple les considère vraiment comme une plateforme à part entière et ne cesse de les améliorer avec le temps. On aura d'ailleurs sans doute le droit à de nouvelles annonces lors de la WWDC. En tout cas, je l'espère. En tout cas, cette semaine, c'était un petit peu la semaine d'Apple Music, hein, parce que, outre cette annonce relative à l'AirPods Max, Apple a annoncé des améliorations pour son application de musique classique. Et d'autre part, Apple Music peut s'interfacer avec plusieurs logiciels et matériels pour DJ. Et Apple a vraiment fait les choses bien parce qu'elle a également mis au point des listes de lecture spécialement pensées pour cet usage. Alors, on parle beaucoup service ici. Et des fois, on est critique, mais franchement, je trouve que Apple Music est probablement le service le plus sous-estimé d'Apple. Je trouve qu'il mérite beaucoup mieux que ce qu'il a actuellement. C'est un service qui innove pas mal, quoi qu'on en dise, enfin
Ah oui,
beaucoup plus que la
même
concurrence.
beaucoup, ouais.
Voilà, qui est quand même proposé à un prix compétitif. Enfin, je veux dire, je crois que Spotify, c'est plus cher.
Un peu plus
Enfin,
cher, ouais.
voilà. Et alors. C'est pas une histoire qui soit numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais c'est quand tu vois que le nombre d'abonnés stagne, enfin voilà, ils gagnent en 2-3 ans, ils ont gagné 10 ou 15 millions d'utilisateurs, alors que Spotify en a gagné, je sais pas, 60 ou 80 millions. Bah, il y a un petit côté injuste. Mais je pense, enfin, j'ai un peu réfléchi à cette situation-là, enfin, je pense vraiment qu'Apple a perdu la bataille du marketing. Quand tu écoutes un podcast, Apple est omniprésent. Voilà, quand tu écoutes un épisode, c'est quand même très fréquent que le podcasteur dise à ses auditeurs, s'il vous plaît, suivez-moi sur Apple Podcast, mettez-moi une bonne note, etc. D'ailleurs, vous pouvez le faire si vous nous écoutez sur podcast ou sur Spotify ou je ne sais quoi. Je vous l'invite à le faire. Et plus sérieusement, tandis que quand les médias ou autres parlent de musique en ligne, genre on a mis une playlist, vous pouvez écouter notre playlist. Alors, en France, en tout cas, on cite toujours Spotify. Alors,
Ouais.
c'est normal, c'est leader. Mais de temps en temps, ils évoquent un autre service. Et alors, souvent, c'est Deezer. Alors, c'est
Ah.
vrai que Deezer, il y a une spécificité française qui est évidente. Mais jamais, ou très très rarement, on parle d'Apple Music. Ils ont vraiment raté le coche quelque part. Et ça, j'arrive pas trop à me l'expliquer. Enfin, je dis souvent que leur nom n'était peut-être pas une bonne idée. Mais bon. D'ailleurs, au passage, petite digression, on a appris que Napster a été vendu pour une bouchée de pain ou presque cette semaine. Et à mon avis, la deuxième faiblesse d'Apple Music, et ça je pense que toi tu le relèveras peut-être, c'est quand même sa fermeture qui est relative. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, il faut vraiment être dans l'écosystème pour l'utiliser. Et là aussi, je trouve que c'est une erreur et c'est assez compréhensible. Quand on voit les efforts qu'Apple a fait pour promouvoir Apple TV+, qu'on retrouve sur un nombre de plateformes assez incroyable, et voilà, Apple Music, Apple aurait pu être peut-être un peu plus ambitieuse à ce niveau-là.
Moi, je suis abonné à Spotify depuis quasiment le début, depuis que le service existe. Et je reste abonné à Spotify parce que bah, justement, j'ai tout un historique sur Spotify. Et puis, Spotify Connect aussi, je trouve ça super comme fonction pour diffuser sa musique sur d'autres appareils. Et je trouve dommage qu'Apple Music n'ait pas de véritable équivalent. AirPlay, c'est quand même pas la même chose. Mais je reconnais que Apple Music innove sur plein de choses. Moi, je sais que dès que je peux, j'essaie de gratter des mois gratuits d'Apple Music. Parce que j'adore le mode karaoké, l'audio spatial aussi, j'aime bien écouter de temps en temps des musiques en audio spatial. Ça rend pas toujours bien, mais parfois sur certains titres, c'est quand même vachement impressionnant avec des AirPods Pro ou des AirPods Max. Et puis là, il y a l'application Apple Music Classical aussi avec les guides. J'ai parcouru un soir un peu les guides. C'est super d'avoir des guides dans l'application qui t'explique qu'est-ce que l'orchestre, le compositeur a voulu faire à ce moment-là et tout ça. Et c'est un service hyper innovant et effectivement qui gagnerait à être encore plus populaire qu'il ne l'est. Ouais.
Il y a juste un truc. Alors, je ne sais pas où on en est de ce point de vue-là, ou si l'Europe a fait ou prévoit de faire quelque chose. Il y a quand même, parce que là, on est quand même dans une, aller dans une démarche régulatrice très importante. Je pense qu'elle devrait faire en sorte que les utilisateurs puissent migrer facilement d'un service à l'autre. Ça reste quand même l'un des points, alors qu'il y a des choses sur certains. Enfin voilà, on change de forfait téléphonique d'un claquement de doigts, par exemple, et ça reste quand même très compliqué.
Alors il y a des services qui existent pour faire ça, mais ça marche pas toujours très bien. Il y a même Apple et Google se sont quand même entendus sur ça, sur le transfert de données pour les photos. Maintenant, on peut migrer assez simplement une bibliothèque Google Photos vers iCloud Photos ou l'inverse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de standard pour les playlists de musique et ça, c'est dommage. Ouais.
Et je ne sais pas si l'Europe travaille dessus, mais alors vraiment, quand on parle de DMA, c'est un truc où ben, je pense que ça les arrange tous parce qu'ils gardent. Se dire je vais transférer ma playlist d'un service à l'autre lorsque tu as 5 ou 10 ans de passif.
Ouais.
Bah, c'est un truc, ouais, tu réfléchis à deux fois avant de le faire.
Absolument. En parlant de DMA, d'Europe, WhatsApp peut maintenant être défini comme application par défaut pour les messages et les appels sur votre iPhone, à condition d'avoir au moins iOS 18.2. Oui, vous avez bien entendu, hein, vous pouvez remplacer les applications messages et téléphone d'Apple par WhatsApp. J'ai envie de dire, après tout, ben pourquoi pas. Certaines personnes utilisent plus WhatsApp que messages pour communiquer avec leurs proches. Alors pour celle-ci, il est intéressant d'avoir la messagerie de Meta comme app par défaut. Concrètement, en faisant ce changement, c'est WhatsApp qui s'ouvre en premier depuis Contact ou d'autres applications. Pour le coup, ça, c'est un effet très concret du DMA.
Tout à fait. Et je crois que le tuto comment passer WhatsApp comme application par défaut va faire un carton en Allemagne. Parce que là, c'est vraiment une institution.
Bah, en France aussi, hein, c'est...
Ici, c'est vraiment... C'est le ton au-dessus. Envoyer à quelqu'un un SMS, mais je crois que personne n'y pense. Hein. Donc, c'est assez curieux. J'ai beaucoup critiqué le DMA sur certains points, mais alors sur ça, je trouve que c'est très, très bien de laisser aux utilisateurs le choix. Et voilà, ce sera dû arriver bien avant. Alors, j'ai rien contre WhatsApp. Je trouve que beaucoup la critiquent d'ailleurs un peu facile contre cette app. Parce que bon, elle est gratuite et elle a quand même permis à des centaines de milliers de gens, voire des milliards, de communiquer gratuitement ou un coût nettement moindre. C'est quand même une des révolutions du smartphone. À propos d'ailleurs, une petite pensée pour Skype qui vit ses derniers jours et qui aurait dû faire partie de cette révolution.
Ouais.
Mais quand on se vend à eBay puis à Microsoft, on ne pouvait que mal finir. Voilà, ça c'est dit. Et c'est en plus à la base un logiciel européen, donc c'est vraiment dommage. Mais si j'avais justement à être un tout petit peu critique, je trouve ça juste dommage que WhatsApp soit la première application à tirer parti de cette fonctionnalité. Elle est où la concurrence européenne ?
Alors on a un petit peu cherché quand même depuis.
Il y a des nouveaux ? Il y a des nouveaux noms ?
Alors il y a Beeper, l'application là, qui pendant un moment essayait d'intégrer aussi les e-messages dans son service. Donc Beeper, c'est une application qui centralise un peu toutes les messageries. On a vérifié et on peut la définir aussi comme application par défaut sur iOS. Ça doit faire depuis pas très longtemps. Et pour les appels, il y a Zoom. Vous pouvez, si vous voulez, maintenant remplacer téléphone par Zoom comme application par défaut pour les appels. Voilà.
Alors, autant WhatsApp, imaginez, autant Zoom.
C'est pour les pros, quoi. Sur le téléphone pro.
Ceci dit, tu vois, on parlait des marques et à quel point Apple Music était complètement... Apple avait complètement perdu la bataille avec Apple Music. Par contre, je trouve que, justement, pour les appels vidéo, FaceTime... c'est un terme qui est vraiment entré dans le vocabulaire du quotidien. J'entends beaucoup de gens, on se fait un FaceTime, et pas forcément des gens qui sont, on va dire, en plein dans l'écosystème Apple. Ça, c'est une vraie victoire d'Apple. Sinon, d'ailleurs, je suis retombé sur le panneau pour choisir son navigateur dans iOS. Ça, je pense que Apple est obligé de le remettre. C'est quand j'ai installé 18.4.
Après la réinstallation. Ouais.
Voilà. Dans la liste des navigateurs qui sont proposés, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est les petits textes qui sont à chaque fois au-dessous de chaque navigateur mis en avant pour t'inciter à utiliser un navigateur plus qu'un autre. C'est très intéressant. Et voilà, Apple aussi sur le fait ultra rapide, vie privée, genre de choses. Et en fait, ils tournent pratiquement tous autour de ces deux concepts. Certains ajoutent également le blocage de pub. Mais voilà.
On va terminer le tour de l'actu en parlant, une fois n'est pas coutume, d'Android. Google a confirmé auprès du site Android Authority un changement dans le développement d'Android. Vous le savez sûrement, Android est open source, en tout cas en partie. Le système d'exploitation a une base open source qui est surnommée AOSP. Et cette partie du système, Google l'a développée jusqu'à présent à ciel ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait voir les avancées du projet. Et ça va bientôt changer. À partir de la semaine prochaine, cette partie du développement va se faire en privé, comme le reste d'Android qui est propriétaire. Google justifie ça en faisant valoir que ça va simplifier son flux de travail. Est-ce que ce développement plus privé va changer quelque chose pour les développeurs ou les utilisateurs ?
Je ne suis pas un expert d'Android, mais alors déjà, je ne sais pas si c'est bien clair. Donc le code AOSP sera toujours disponible une fois celui-ci totalement finalisé.
Oui, ça c'est important de le signaler. Android va rester quand même open source.
Voilà. Et c'est ce que fait d'ailleurs Apple avec Darwin. Si vous cherchez le code de Darwin relatif à Darwin qui sera dans iOS 19 et la prochaine version de macOS, il y aura rien. Mais quelques semaines après la finalisation de ces versions-là, vous pourrez avoir accès à Darwin, au code source de Darwin. Bah, c'est vrai. Alors, Android, c'est quand même toujours moins open source. Je peux comprendre que cela facilite la vie aux développeurs de Google qui peuvent mieux maîtriser leur sujet. Je peux comprendre que cela permet aussi à Google de limiter les fuites, car le code publié dans AOSP pouvait parfois donner de sérieux indices sur les grosses nouveautés en cours de développement. Mais bon, à la fin, je vois surtout cela comme un moyen pour Google de confirmer sa mainmise sur le projet, de compliquer la vie à ceux qui proposent des Android alternatifs. Alors, je ne sais pas comment la communauté Android a réagi. Je ne sais pas si justement la communauté open source, est-ce qu'ils ont énormément de personnes qui apportent quotidiennement des patchs et des correctifs à OSP. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça.
J'ai vu certains journalistes spécialisés justement qui ont regretté ce changement-là parce que pour eux, ça va être plus difficile de dénicher les nouveautés à l'avance, quoi.
Ouais, clairement. Il y a un truc quand même, je pense, autour d'AOSP et d'Android en manière générale qui, moi, me surprend toujours. Enfin, évidemment, vous achetez un smartphone Google, Samsung ou je ne sais quoi, vous utilisez de l'Android, ça c'est une évidence et on n'apprend rien à personne. Mais le truc qui me surprend à chaque fois, c'est le nombre d'objets électroniques qu'on achète et on fouille un petit peu et on se dit « Ah dis donc, ce truc-là également, il a une base Android. » Et là, on se rend pas compte des millions et des millions d'appareils.
Une milliard, je pense.
Ouais. Oui, clairement. Ouais. Mais j'aime bien, par exemple, dans le vélo, il y a par exemple Wahoo qui font des super compteurs pour cyclistes. Et une fois, je l'ai branché sur mon Mac et j'ai un petit peu fini, je me dis « Ah, tiens, ce truc, il est Android. J'y avais pas pensé. » Donc, malgré tout, c'est une décision. Alors, ils prennent sans doute que les couches bases d'Android qui doivent sans doute correspondre plus ou moins à OSP, parce que sur ces appareils-là, j'ai comme mon fils qui a également une sorte de mini microscope vidéo, enfin, je suis persuadé que c'est l'Android derrière, et quand on l'utilise, on ne s'en rend pas compte, quoi. Mais peut-être que... Alors, il y a deux choses. C'est quand même à quel point Android a quand même changé la vie, sans doute facilité la vie des entreprises qui veulent développer une couche logicielle et avoir un système d'exploitation autonome. Ça, c'est une première chose. Ah, peut-être que eux, cette décision-là, ça peut éventuellement les perturber.
Ouais, peut-être les retarder un petit peu. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end et bon week-end à tous. Et si vous voulez mettre 5 étoiles, allez-y quand même.
Merci. Bon week-end à tous. Et puis attention au changement d'heure. Hein. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, quand il sera 2h, en fait, il sera 3h du matin.
Bah, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ne demandez pas à Siri de vous réveiller.
Ouais, surtout pas. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.